Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos, tous ensemble. Et ce soir, l'hommage de Marseille à Bernard Tapie. Des milliers de supporters chantent en ce moment au stade Vélodrome. La finale de la Ligue des Champions 93 est rediffusée sur les écrans géants dans quelques minutes. Le cercueil de l'ancien président de l'OM sera porté jusqu'au centre de la pelouse. C'est évidemment notre fil rouge ce soir, notre fil bleu et blanc. Nos envoyés spéciaux sont au bord du terrain et notre invité de 18h15 sera Jean-Marc Ferreri, champion d'Europe 93. Nous allons vous faire vivre cette cérémonie hors norme à l'image de Bernard Tapie et de cette ville. Les autres titres de l'actualité maintenant, à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un an après la mort de Samuel Paty, un hommage vendredi prochain dans les écoles. Il ne sera pas obligatoire, chaque établissement pourra choisir sa forme. Détails et réactions dans un instant. Ce sera donc mardi prochain, échange entre le ministre de l'Intérieur et des Cultes et le patron des évêques de France, après ses propos polémiques sur le secret de la confession. Et puis, le pass sanitaire maintenu en l'état, au moins jusqu'au 15 novembre. Pas d'adaptation locale pour l'instant. Le gouvernement joue la carte de la prudence. Les courses dans le Quintet Plus à Saint-Cloud, il fallait jouer le 7, le 9, le 5, le 2 et le 11.
À suivre aussi, entre autres, laissez-vous tenter dernière quand la musique classique s'invite à la campagne. Et puis, on défait le monde, 18h40, les 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu ?
Ce soir, on fera un point précis sur l'épidémie de Covid. Octobre 2020, octobre 2021, vous découvrirez pourquoi on aborde l'hiver de façon bien différente. Et puis au menu également, les malheurs de Nicolas Dupont-Aignan avec les sondages et la fabuleuse histoire de mamie footballeuse.
Allez, à 19h15, on va débattre et refaire le monde autour d'Éric Brunet. On parlera notamment de ces échanges entre le ministre de l'Intérieur et le patron des évêques de France. Et puis des points réguliers sur le temps avec vous. Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quelle est la tendance à venir ?
Une belle journée ensoleillée demain.
Très bien, on vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir, Julien Cellier.
Hommage à Bernard Tapie.
Et certains attendent depuis le milieu de l'après-midi devant le Vélodrome. Les supporters de l'OM font aujourd'hui leurs adieux à Bernard Tapie.
Celui qu'il continue d'appeler le boss. C'est sous sa présidence que l'OM s'est imposé en 1993 en Coupe d'Europe. La première mi-temps de ce match est d'ailleurs rediffusée dans le stade avant l'arrivée du cercueil. Ce sera dans une demi-heure. Hugo Hamelin, vous avez pris place dans les tribunes pour RTL.
Oui, tout à fait, dans un vélodrome transformé en chapelle du football, en cathédrale de la ferveur marseillaise, et qui garde un aspect très solennel, hein, puisque les quelques milliers de supporters qui sont venus rendre un dernier hommage à Bernard Tapie sont tous regroupés au pied de la tribune Jean Bouin, la seule qui a été ouverte, toutes les autres tribunes sont vides. Sur l'écran géant, on rediffuse la finale de 93, dont on connaît l'issue forcément, mais les émotions sont toujours là, même pour les gens qui l'ont vu 20 fois, surtout que sur la pelouse, au milieu du rond central, des gerbes de fleurs blanches vont accueillir dans quelques minutes le cercueil de Bernard Tapie, instant d'émotion attendu par tous ici, et comme l'a dit le chef du groupe des supporters des Sauce Winners au micro tout à l'heure, adieu l'OM, allez l'OM et adieu le boss.
Hugo Hamelin au stade Vélodrome pour RTL.
Et nous sommes maintenant en ligne avec l'un des supporters dans ce stade Vélodrome qui va porter le cercueil jusqu'au cœur de la pelouse dans quelques minutes. Bonsoir Michel Tonini.
Bonsoir.
Vous êtes le président des Yankees, club de supporters. On imagine votre émotion là, à quelques instants de ce moment si particulier pour vous.
Oui, parce que en fait, ça paraît irréel, même si on s'y attendait depuis quelques mois, parce qu'il combattait la maladie. Mais Bernard Tapie, c'est plus que le boss, c'est plus qu'un président. Il fait partie de nous-mêmes. Il appartient au Marseillais, à Marseille et à l'Olympique de Marseille.
C'est un sacré signe quand même de vous voir, vous, Michel Tonini, avec les autres patrons de clubs de supporters aux côtés de ce cercueil là dans quelques minutes. Ça veut dire quelque chose, c'est un vrai symbole.
Oui, parce que en fait, on va dire que le mouvement supporter à Marseille et par extension en France est né avec lui. Et se perpétue aujourd'hui. Et quel meilleur hommage à lui rendre que lui rendre un dernier hommage sur cette pelouse du Stade Vélodrome.
Et Michel Tonini, vous parlez de mouvement des supporters. Dans le stade, là, ce soir, il y a des enfants, il y a des poussettes, il y a des ados, il y a des jeunes qui n'étaient pas nés en 1993. Est-ce que c'est un cours d'histoire de l'OM qu'on est en train de voir à ciel ouvert ce soir, un moment de transmission quelque part?
Ben, c'est la preuve qu'il est transgénérationnel. Bernard Tapie, ça reste aussi à jamais les premiers. Et pour ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui n'ont pas connu ces grands moments, bah c'est aussi la preuve que l'Olympique de Marseille se perpétue.
Merci beaucoup Michel Tonini, président du club des supporters des Yankees, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Dans quelques minutes, vous allez donc porter le cercueil de Bernard Tapie avec d'autres supporters jusqu'au cœur de cette pelouse du stade Vélodrome. Et bien entendu, RTL Soir suit en fil rouge, en fil bleu et blanc, on l'a dit, cette cérémonie hors norme sur la pelouse du stade Vélodrome.
RTL Soir. Et c'est un autre hommage qui se prépare cette fois dans les écoles. Élèves et professeurs invités à se souvenir de Samuel Paty, cet enseignant assassiné il y a un an près de son collège dans les Yvelines pour avoir montré en classe les caricatures de Mahomet.
Et aujourd'hui, l'éducation nationale a défini les contours de cet hommage. Alors ce sera vendredi prochain. Qu'est-ce qui est prévu exactement, Nicolas Burnand?
Eh bien, cela va durer une heure à la fin de la journée de cours, un temps de recueillement, d'échange et de débat autour de la construction de l'esprit critique, comment se forger un avis éclairé à partir de la confrontation des faits et des idées, et puis sur le rôle de l'enseignant, sa légitimité, ce qu'il apporte à la société. Cela pourra prendre la forme de simples discussions, la lecture de textes ou la rédaction de petits exposés, par exemple.
Et l'idée de cet hommage, dans une semaine, elle est accueillie comment, Nicolas?
Elle est plutôt bien acceptée par les enseignants et les chefs d'établissement, toujours traumatisés par l'assassinat de leur collègue Samuel Paty, même s'ils auraient préféré avoir davantage de temps pour se préparer. Ils n'ont pas l'obligation d'organiser quelque chose, c'est une incitation, pas de minute de silence imposée non plus. Et surtout, le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction du niveau et de l'âge des enfants. Christine Guimonet enseigne dans l'Académie de Versailles. Elle est secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie.
Dans tous les établissements, d'une manière qui sera propre à chacun, on aura cette respiration qui, pendant quelques minutes, là, on va tous penser à Samuel, chacun à sa manière. Et la manière dont le texte du ministre est rédigé laisse justement de la souplesse pour pouvoir organiser ça de la manière la plus adaptée à chaque classe et à chaque niveau.
Le ministère de l'Éducation nationale promet que les professeurs seront accompagnés lors de cette journée. Des documents en ligne seront notamment publiés pour les aider.
Explication signée Nicolas Burnand pour RTL. Et au-delà de cet hommage, les parents de Samuel Paty seront reçus par Emmanuel Macron samedi prochain, un an jour pour jour après l'assassinat de leur fils.
C'est une phrase qui continue de faire polémique et sur laquelle le ministre de l'Intérieur et des Cultes demande désormais des explications.
Cette phrase, c'est celle du président de la Conférence des évêques de France sur la confession. Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République, avait expliqué Monseigneur de Moulin-Beaufort, après que la commission Sauvé a préconisé une obligation pour le confesseur de signaler d'éventuelles violences sexuelles infligées à un mineur dès la mi-journée. Le porte-parole du gouvernement lui a répondu.
Il n'y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays. Ça tient en une phrase, et c'est très clair. Le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de recevoir le président de la Conférence des évêques de France pour que les choses soient claires de ce point de vue-là, et l'échange aura lieu, je crois, la semaine prochaine.
Alors, échange prévu dans quelques jours, effectivement, et le patron de la Conférence des évêques fait savoir ce soir, Marie Guerrier, qu'il s'y rendra bien.
Oui, rendez-vous est pris mardi prochain à 14h. Éric de Moulin-Beaufort avait reconnu dès hier qu'il avait fait une erreur en prononçant cette phrase. Il fait savoir ce soir qu'il a reçu un message de Gérald Darmanin pour convenir d'un entretien et qu'il sera heureux d'échanger avec le ministre sur le sens du sacrement de la confession, sur les fondements théologiques, spirituels et canoniques du secret de la confession. Ce sera, ajoute le président de la Conférence des évêques de France, l'occasion de rappeler que ce secret imposé aux prêtres par le droit canonique, le droit de l'Église, n'est pas contraire au droit pénal français, comme l'a souligné une circulaire de la chancellerie le 11 août 2004. L'archevêque de Reims conclut son communiqué par cette phrase. Le secret de la confession a toujours été respecté par la République française. C'est l'honneur de la République française que de respecter la dignité de la conscience de chacun.
Marie Guerrier pour RTL.
C'est une école d'ingénieurs parmi les plus cotées en France. Centrale Supélec a annoncé aujourd'hui avoir saisi la justice après une enquête menée auprès de ses élèves dans laquelle une centaine d'agressions sexuelles et viols ont été déclarées pour la seule année scolaire 2020-2021. On va y revenir tout à l'heure dans le journal de 19h.
En attendant, ce journal se poursuit dans un instant avec le maintien en l'état du pass sanitaire jusqu'au 15 novembre prochain. Pas d'aménagement, on va vous expliquer pourquoi tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL, 18h11, la suite de votre journal. Et donc, finalement, les règles ne changeront pas. Pas d'adaptation du pass sanitaire avant le 15 novembre prochain.
Sophie Jousselin, le gouvernement a tranché, n'excluant pas une reprise de l'épidémie.
Oui, le gouvernement se donne du temps pour voir comment évolue la situation sanitaire. Dans certaines régions, comme la Bourgogne-Franche-Comté, les Pays de la Loire, la baisse du taux d'incidence marque le pas. On entre en plus dans la période hivernale, les températures sont plus fraîches, le fond de l'air plus humide, un vrai bonheur pour le virus. 600 000 personnes fragiles ne sont pas encore vaccinées, donc il est urgent d'attendre. Et si allègement du pass sanitaire il y a, il devrait se faire plus par secteur que par région. Par exemple, on continuerait de l'exiger au restaurant ou au cinéma, on le supprimerait dans les stades ou les musées.
Alors par ailleurs, aujourd'hui, Sophie, on a eu la confirmation de l'élargissement du public cible pour une troisième dose. Ça va concerner qui et à partir de quand?
Alors ça concerne les soignants, les personnels des transports sanitaires, les proches des personnes immunodéprimées. Dès lors qu'ils ont reçu leur deuxième dose depuis plus de 6 mois, ils peuvent, mais ça n'a rien d'obligatoire, avoir leur rappel.
Alors sur le calendrier, on rappelle aussi que dans 8 jours maintenant, les tests Covid vont devenir payants et on sait désormais combien ça va coûter, Sophie.
Oui, 44 € pour un test PCR et 22 pour un test antigénique en laboratoire. En pharmacie, ce même test antigénique sera facturé 25 €, une somme que devront débourser les personnes non vaccinées, qui n'ont pas d'ordonnance et qui ne sont pas qu'à contact.
Une question-réponse avec Sophie Jousselin pour RTL.
Et on précise aussi que dès lundi prochain, à la faveur d'un taux d'incidence stabilisé sous les 50 cas pour 100 000 habitants, eh bien le masque va tomber en primaire dans 21 départements supplémentaires.
47 étaient déjà concernés. Une liste complète à retrouver sur notre site internet rtl.fr. On l'a appris cet après-midi, les pensions complémentaires de 13 millions d'anciens salariés du privé vont augmenter le mois prochain de 1%. C'est un demi-point de moins que l'inflation. Nouveau débat mouvementé à l'Assemblée aujourd'hui sur l'allocation adulte handicapé. L'opposition a défendu une individualisation pour que les revenus du conjoint de la personne handicapée ne soient plus pris en compte dans le calcul. Démagogie, opportunisme électoral, répond la majorité. Et au final,
l'ensemble des articles ou des amendements portant articles additionnels ayant été rejetés ou supprimés, la proposition de loi est rejetée.
Quelques sifflets donc, et les communistes ont déjà prévenu qu'ils remettraient l'ouvrage sur le métier en décembre prochain.
Les députés qui en revanche ont adopté à l'unanimité une résolution pour faire de la sauvegarde des abeilles une grande cause nationale en 2022.
C'est un énorme magot amassé pendant la crise selon l'assureur Allianz. Pour la première fois l'an dernier, l'épargne des ménages dans le monde a atteint la barre des 200 000 milliards d'euros. Dépôts bancaires, épargne, retraite, placement boursier, ils ont progressé de près de 10% l'an dernier compte tenu de l'impossibilité de dépenser avec la crise et les confinements.
RTL, 18h14. Après les invectives, l'heure peut-être de l'apaisement entre la France et le Mali.
Petit rappel des épisodes précédents, ils sont nécessaires. À la tribune de l'ONU fin septembre, le Premier ministre de transition du Mali avait dénoncé l'abandon de son pays par la France avec le retrait progressif des soldats de l'opération Barkhane. Dans la foulée, Emmanuel Macron avait qualifié de honte ses propos avant d'appeler à un retour de l'État au Mali. Aujourd'hui, fin de l'escalade et appel au dialogue lancé par le Premier ministre Choguel Maïga.
Il peut y avoir au niveau des autorités françaises des approches qui ne sont pas les mêmes que celles du gouvernement malien, ce qui est tout à fait normal. Mais il est hors de question d'imaginer que le peuple malien nourrit à lui le sentiment anti-français. Je rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes maliens qui portent le nom de Damien Boiteux, premier soldat français qui est mort au Mali en 2013, qui portent le nom de François Hollande, le président français. C'est un honneur en Afrique quand vous donnez le nom de quelqu'un à votre enfant. Et ça, c'est dans la mémoire collective, ça ne disparaîtra jamais. Maintenant, il y a des questions de fond auxquelles je pense qu'il faut chercher des réponses de façon calme, sans jeter l'anathème sur les autorités maliennes.
Le Premier ministre de transition du Mali. Et puis des retrouvailles 3 ans après la demi-finale du Mondial de foot. La France et la Belgique se retrouvent à nouveau dans le dernier carré, cette fois en Ligue des Champions. Match à suivre en direct sur RTL. Coup d'envoi 20h. Ligue des Nations, pardon. Ouais, coup d'envoi 20h45.
Il y a beaucoup de compétitions. On s'apprête à confiner.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour. Bonne nouvelle pour le film français Titane, oui. Palme d'or à Cannes, qui a signé un démarrage canon aux États-Unis. Plus de 500 000 billets vendus pour le premier week-end d'exploitation. Outre-Atlantique, le film qui raconte l'histoire d'une tueuse en série n'est pas interdit aux moins de 16 ans. En France, à l'heure actuelle, 300 000 entrées comptabilisées.
Donc c'est bien davantage aux États-Unis.
Exactement.
Vive nos amis américains. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant, Peggy, encore du soleil demain.
Exactement. Alors, il y aura quand même des nuages bas demain matin, Julien. Des grisailles, des bandes de brouillard, ils seront assez nombreux, c'est vrai, surtout sur les côtes de la Manche et le centre-est. Mais tout ça va se dissiper, le soleil va s'imposer sur l'ensemble du pays. Juste, allez, quelques nuages entre l'Auvergne et l'Alsace, mais l'impression restera belle. Il n'y a qu'en Corse, finalement, où le ciel sera un petit peu plus chargé avec quelques averses possibles et du vent. Les températures, elles seront encore fraîches le matin, souvent sous les 10 degrés. Et les maximales de saison, 17 degrés à Lille, 18 à Nancy et Grenoble, 19 à Paris, 20 degrés à Auch, 21 à Rennes, Brest, Bordeaux, 24 à Perpignan et 25 degrés à Toulon.
Merci Peggy.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, nous avons choisi de nous intéresser au daltonisme. Alors vous vous dites peut-être, mais pourquoi RTL s'intéresse ce soir au daltonisme? Je vois Peggy qui fronce les sourcils. Pourquoi? Parce que le rugby mondial songe à interdire les matchs entre les maillots rouges et les maillots verts. Échéance 2027 pour le mondial, ou peut-être avant. Forcément ça interroge, on va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir.
Donc a priori, terminer les Pays de Galles-Irlande avec les couleurs traditionnelles à l'avenir. Quelle est l'origine de cette décision exactement?
Eh bien, c'est un sujet que porte depuis longtemps Bill Beamon, le président de World Rugby, la fédération internationale, l'ancien capitaine du 15 de la Rose, et lui-même touché par cette déficience visuelle. En 2019, Google Chrome avait mis à la disposition des fans irlandais daltoniens une extension pour les aider à distinguer les équipes lors de la Coupe du Monde au Japon, une technologie qui permettait d'ajuster les couleurs sur les écrans.
Et en proportion, dans le public, il y a beaucoup de daltoniens dans un stade ?
Environ 300 millions dans le monde, ce sont très majoritairement des hommes, puisque 1 sur 12 est concerné contre une femme sur 200.
Ah oui.
La plupart ont du mal à faire la différence entre le vert et le rouge. Sur un stade de 50 000 spectateurs rempli aux 4/5 par des hommes, on peut estimer que plus de 3300 supporters sont gênés pour apprécier le spectacle. World Rugby entend également agir sur l'habillage des stades, limiter les couleurs jusqu'aux billets dont l'apparence devra être plus neutre.
Et quand on est daltonien, on a juste du mal à distinguer le vert et le rouge ?
Alors écoutez, les daltoniens ne perçoivent en général que trois teintes, le bleu, le jaune et une teinte intermédiaire, blanche ou grise. Quelques daltoniens célèbres, Bill Clinton, Mark Zuckerberg et, il l'a longtemps caché, le prince William, ce dernier parrain du 15 de Galles, est aujourd'hui le premier concerné.
Et ben voilà les explications de la brigade RTL de Jean-Michel Rascol qui nous a appris plein de choses ce soir. Merci Jean-Michel. Une pause et puis RTL Soir retourne au stade Vélodrome. Dans quelques minutes, le cercueil de Bernard Tapie sera porté au milieu de la pelouse et les supporters pourront applaudir celui qu'il surnomme le boss. Jean-Marc Ferreri, champion d'Europe 93 sous Tapie, sera également avec nous dans un instant. On va rejoindre bien entendu, je vais y arriver, nos envoyés spéciaux qui sont au bord du terrain pour RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
Misons là. Julien Cellier, RTL Soir.
Hommage à Bernard Tapie.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL et RTL à l'accent marseillais. Ce soir, on retourne tout de suite au stade Vélodrome. C'est notre fil rouge. L'hommage des supporters de l'OM à Bernard Tapie. Ils sont des milliers dans les tribunes en ce moment. Et certains de ces supporters, Hugo Hamelin, vous êtes au stade pour RTL, sont en train de porter le cercueil de l'ancien président de l'OM jusqu'au centre de la pelouse.
Corbillard noir vient de faire son entrée sur la pelouse du stade Vélodrome. Jump dans les oreilles, devancé par un supporter qui porte la réplique de la Ligue des Champions au même endroit où il y a 28 ans Bernard Tapie était venu présenter ce trophée gagné à Munich. L'hymne de l'OM est donc diffusé, les lumières du stade sont allumées, écharpes et drapeaux sont posés sur le cercueil. Les chefs des clubs de supporters sont derrière ce cercueil et viennent désormais l'entourer dans le rond central, posé sur la pelouse. Et vous allez entendre les supporters rendre l'hommage qu'ils attendaient tous de rendre à Bernard Tapie, les applaudissements des 5000 ou 6000 supporters présents de l'OM.
Ouais, c'est absolument unique au stade Vélodrome en ce moment. On va accueillir notre invité maintenant, Jean-Marc Ferreri, champion d'Europe 93, sous tapis justement, consultant foot du groupe M6. Bonsoir Jean-Marc Ferreri.
Bonsoir.
On, on imagine votre émotion là, en entendant Hugo Hamelin, parce que vous, vous êtes en déplacement, on ne va pas le cacher à nos auditeurs, pour commenter un match pour le groupe M6 justement en Allemagne. Vous entendez Hugo Hamelin, vous entendez Jump, le bruit des supporters derrière, vous, j'imagine que l'émotion est immense.
Ah, ça donne des frissons, ouais. Je suis dans le stade d'Hambourg là. On vient d'arriver effectivement avec W9, mais d'entendre tout ça, ça me fait penser le fameux mois de mai 93, trois jours après, le lendemain de la finale à Munich, quand on est arrivé au Vélodrome, qu'il y avait 40 000 personnes qui nous attendaient, et bien on a arrêté au milieu de nous, au milieu du terrain, et on a porté la Coupe d'Europe à tous les Marseillais, les supporters qui nous attendaient depuis des heures et des heures, et j'imagine l'ambiance qu'il doit y avoir dans le Vélodrome.
C'est vrai qu'il y a un vrai parallèle. Finalement, c'est la première fois qu'on voit autant de supporters au stade Vélodrome, alors qu'il n'y a pas de match depuis ce jour de 93 où effectivement vous avez rapporté la coupe à la maison. Il était comment ce jour-là, Bernard Tapie, puisque c'est la première image qui vous vient? Il y avait une fierté immense, une envie de partager avec le public.
Ah ouais, c'était une journée fantastique. Bon, on avait fait un peu la fête après le match, mais on était resté dans notre hôtel qui était retiré de Munich. On était entre nous, on avait fait la fête avec un petit peu ensemble, mais c'est vrai que le lendemain, le boss nous disait, vous allez voir quand vous allez arriver à Marseille, quand on va arriver à Marseille, ça va être fantastique, l'accueil des Marseillais, avec le rêve qu'on leur avait donné avec cette Coupe d'Europe. Effectivement, c'était magique, cette soirée, c'était magique, l'arrivée au Vélodrome, ça reste aggravé à jamais dans nos têtes.
Restez avec nous, Jean-Marc Ferry, parce qu'on vient d'entendre derrière vous, et les auditeurs d'RTL l'ont sans doute reconnu, le fameux aux armes, le chant de ralliement en quelque sorte des deux virages du Vélodrome. Étienne Baudu, vous êtes dans une tribune justement du stade Vélodrome, au cœur de ce public. Alors au téléphone, parce qu'on ne va pas le cacher non plus à nos auditeurs, c'est très compliqué d'assurer une liaison technique alors que les supporters sont vraiment très nombreux ce soir au Vélodrome. Étienne, quel moment d'émotion dans autour de vous?
Voilà, même au téléphone, hein, je peux vous dire que l'émotion est intacte ici, avec ce cercueil recouvert d'un drapeau aux couleurs de l'OM, et derrière, bras dessus, dessous, les groupes de supporters. Je peux vous dire que je suis avec Michel, Stéphane et Sabria, et je peux vous dire qu'il y avait il y avait des larmes dans les yeux, hein, Michel.
Très grande émotion. Très grande émotion. Je ne peux pas en dire plus, on est vraiment très triste de voir ça, mais ça nous fait un gros manque.
Grosse émotion, je suis très émue. Pour moi, c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes là devant lui. Et pour nous, il sera immortel à jamais dans nos cœurs. Merci.
Voilà, immortel dans leur cœur, dans une cathédrale, hein, la cathédrale de l'OM, qui résonne là, où vous voyez de We Are the Champions, un des hymnes de l'OM.
Merci Étienne Baudu depuis les tribunes du Vélodrome. Jean-Marc Ferreri. Pour terminer, on entend l'amour des supporters ce soir envers Bernard Tapie. Expliquez-nous, est-ce que Tapie, il vous parlait des supporters dans les vestiaires, dans les causeries, il tenait en très haute estime ce public?
Mais c'était une fusion, c'était une passion commune. C'était fabuleux, il a donné du rêve à tous ses supporters, à toute la ville de Marseille, tous ses supporters marseillais en ramenant ce titre et cette Coupe d'Europe, donc forcément il y avait une admiration qui était des deux côtés pour Bernard et pour ce public marseillais.
Merci beaucoup Jean-Marc Ferreri, champion d'Europe 93 sous tapis, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Merci à vous Hugo Hamelin et Étienne Baudu, les envoyés spéciaux de RTL au Vélodrome. On va se quitter avec Queen et We Are The Champions en fond, mais bien entendu on va vous retrouver dans les minutes à venir, parce que c'est le fil rouge ce soir sur RTL. On a encore envie d'entendre l'émotion des supporters dans RTL Soir. À tout à l'heure les amis. On marque une très courte pause et dans un instant on va vous rappeler les grands titres de l'actualité avec Marion Calais. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et si vous venez justement d'allumer la radio et de vous brancher sur RTL, eh bien Marion Calais vous rappelle les grands titres de l'actualité.
Et le cercueil de Bernard Tapie au milieu de la pelouse du Vélodrome, hommage des supporters à l'ancien président du club avant ses obsèques demain en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. On l'apprend ce soir, le parquet d'Evry ouvre une enquête sur les agressions sexuelles et les viols signalés au sein de l'école d'ingénieurs Supélec. L'établissement avait saisi la justice après une enquête auprès de ses élèves. Et puis Belgique-France, demi-finale de la Ligue des Nations. C'est ce soir à suivre à partir de 20h45 sur RTL.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps, Peggy, soleil demain.
Exactement, soleil pour tout le monde après dissipation de quelques grisailles et brouillards le matin. Ensuite, on va retrouver du soleil sur tout le pays. Un peu plus de nuages entre l'Auvergne et l'Alsace, mais rien de bien méchant. C'est en Corse où le temps sera plus mitigé avec quelques averses. Les températures fraîches le matin, l'après-midi de 17 à 21 au nord, 18 à 25 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, RTL se plonge dans les coulisses du marché de l'emploi. Hier soir, la bonne nouvelle est tombée. L'INSEE prévoit un taux de chômage en baisse à 7,6% au troisième trimestre, du jamais vu depuis 2008. Dans ce contexte, RTL a poussé la porte d'un immense chapiteau, place de la Concorde à Paris aujourd'hui. Un salon de l'emploi, 5000 offres dispo pour comprendre où on recrute et où on ne recrute plus. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Alors le chômage baisse, mais il y a encore des demandeurs d'emploi en grande difficulté. Vous en avez rencontré aujourd'hui.
Absolument. Pochette plastique en main, garnie de CV mise à jour. Lynn, 25 ans, est à la recherche d'un emploi. Et effectivement, elle est pourtant diplômée en marketing international et commercial. Elle ne ménage pas ses efforts, mais cela ne paie pas pour l'instant.
J'ai pas travaillé sur une période de un an et demi.
Et effectivement, vous l'entendez, il y a beaucoup d'étudiants aussi là-bas. Et dans les allées, on croise souvent les mêmes profils, jeunes, bardés de diplômes, comme elle justement et comme Lynn.
Ils nous demandent d'avoir des expériences de 10 ans.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans vos recherches, à vous ?
Les refus. Parfois, on se dit que ça y est, on y arrive parce qu'on réussit à décrocher des entretiens. À la dernière minute, on a un désistement, soit par manque d'expérience, soit parce qu'on est trop jeune, alors qu'on a des bacs plus 5 ou plus 3. Et ce sont des postes à responsabilité, donc ils n'osent pas nous les confier parce qu'on est jeune.
Et certains peinent effectivement à trouver parfois une première expérience.
Et puis vous avez aussi découvert une autre galère, alors davantage médiatisée ces dernières semaines, des employeurs qui recherchent des salariés désespérément.
Oui, j'ai pu discuter avec Élodie Jonquière, chargée de ressources humaines chez Vulcanic, qui fabrique du chauffage industriel dans Lyon. Et des postes, elle en propose 12, là, tout de suite.
Ils sont tous en CDI, sauf deux.
Techniciens de maintenance, tourneurs, fraiseurs ou encore soudeurs sont extrêmement convoités par les employeurs.
On a l'impression de se battre face à nos concurrents pour attirer les candidats. C'est quand même incroyable d'en arriver à effectivement proposer, essayer de proposer plus que l'autre. C'est celui qui proposera le mieux en fait. C'est une bataille, j'ai envie de dire, oui, ça, on se bat un petit peu pour ça. C'est la réalité aujourd'hui, oui. Le marché de l'emploi s'est inversé. On espère quand même trouver, voilà.
Et le constat est également partagé dans l'événementiel où les candidatures sont rares et où les entreprises font tout pour attirer les candidats.
Les dessous du marché de l'emploi ce soir avec vous, Arnaud Touche, merci pour RTL.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Allez, 18h34 minutes.
Vous tenter dernière.
Et c'est le moment de la petite pause culture tous les soirs, le moment de s'aérer. Les jolis conseils de la bande de LVT tous les soirs. On vous invite à des concerts, on vous propose des bouquins, on vous propose de jolis CD à écouter. Alors c'est concert ce soir avec vous, Julia Molcou. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et vous nous emmenez à la campagne en plus. Hein.
Oui, parce que ce soir à Charmes-sur-Rhône et demain à Méreuil, le quatuor français Modigliani se produit dans le cadre des concerts de poche.
Qu'est-ce que c'est exactement les concerts de poche ?
Alors c'est une association créée en 2005 par la pianiste Gisèle Magnon, persuadée que la musique classique, le jazz et l'opéra devaient rayonner partout et être partagés par tous. Et en plus de programmer des concerts là où d'habitude ils ne trouvent pas leur place, comme dans les territoires ruraux, certaines zones montagneuses et les quartiers dits prioritaires, eh bien l'association Les Concerts de Poche mène aussi des ateliers avec les habitants, ateliers qui peuvent durer entre quelques semaines et plusieurs mois avant le concert.
C'est-à-dire quel type d'atelier ?
Là, par exemple, ils vont créer des chœurs avec des gens qui jusque-là n'avaient jamais chanté. Et le jour du concert, les habitants, petits et grands, partagent la scène avec les musiciens professionnels qui viennent se produire chez eux. Mais oui, des bravos. Les
ateliers des concerts de poche sont ouverts à tous à partir de 6 ans.
Mais oui, on entendait des enfants.
Et oui, c'était des enfants de CE1 et CE2 là. Et en 2021, ce sont 2000 ateliers et 120 concerts qui auront été donnés et créés partout en France, dans plus de 360 communes, avec, je vous le disais, de très grands noms de la musique, comme le Quatuor Modigliani, qui sera donc en concert ce soir et demain à Charmes-sur-Rhône et à Méreuil, ou encore Michel D'Alberto, le grand pianiste, en concert, lui, dans les Hauts-de-France ce week-end. Mais je vous encourage à aller regarder la programmation des concerts de poche et leurs ateliers sur leur site. C'est vraiment bien. Ça rend tous ceux qui y participent, les musiciens, les initiés et le public qui vient les applaudir, très heureux. C'est beau de voir ça. Ça s'appelle aussi revivre ensemble.
Exactement. Ce soir, Charmes-sur-Rhône, dans l'Ardèche, et Méreuil, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, dans le sud. Oui, j'ai une géographie absolument parfaite de toutes les communes françaises. Merci beaucoup, Julia. À demain pour un nouveau Laissez-vous tenter dernier. On marque une très courte pause, les amis, sur RTL. Et dans un instant, on va défaire le monde, vos 20 minutes d'actu autrement, avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Dans un instant, on va s'intéresser à l'épidémie. Et on va se demander si, avec les températures qui refroidissent, il y a un risque de rebond. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.